Pierre-Louis, Ariane, ou le chemin de la paix éternelle. Chapitre 1. Une forêt de cèdres. Le soir. Sept jeunes hommes et sept jeunes filles marchaient se tenant par la main. Ils étaient venus de l'Attique sur un navire aux voiles noires. Et l'un d'eux était Thésée, fils d'Égée, fils de Pandion, fils de Kécrops, fils d'Érectée. Palme verte, couronne de chêne, cris, triomphe, laurier, main tendue, accompagnez le héros. Accompagnez le héros. Ils étaient venus de l'Attique sur un navire aux voiles noires. Et tous, durant la traversée funèbre, ils s'étaient fiancés deux à deux pour se retrouver au-delà de la mort dans les molles prairies d'Asphodèle. Au-delà de l'horrible mort que leur destinait le taureau humain, fruit de la honte de Pasiphae. Ils s'étaient fiancés. Cependant, deux d'entre eux restaient solitaires. Le héros Thésée, confiant en ses mains, et la Vierge Myris qui marchait auprès de lui. Et le soir montait de la terre. Sous le feuillage horizontal des cèdres, à travers la forêt claire plantée, les rayons allongés du couchant s'étendaient comme des lames d'épée impalpables et transparentes. Les condamnés, deux à deux, traversaient lentement ces grandes armes du soleil. Ils savaient exactement combien ils en rencontreraient jusqu'à l'entrée du labyrinthe. Et après la dernière, ce serait la nuit terrible. Du moins, ils le croyaient ainsi, mais Thésée et Myris, sans lui, avaient d'autres certitudes. Ils marchaient. Ils arrivèrent enfin. Mais ils n'avaient pas encore dépassé le dernier rayon du soleil quand ils entendirent en arrière un pas rapide sur les feuilles mortes. Ils se retournèrent. Une femme était là, arrêtée. Elle était de belle stature, bien chaussée de courroies étroites et vêtue de la tunique courte des suivantes d'Artémis. L'étoffe blanche, attachée aux épaules par deux agrafes d'or repoussées, était serrée à la ceinture et laissait découvert ses genoux délicats. Un diadème d'argent brûlait sur le riche ornement de ses cheveux, dont les uns étaient tressés et coordonnés, les autres retoussés et noués à la laconienne, avec plus de grâce que d'artifice. Et dans ses yeux, si bruns et si clairs tout ensemble, une telle fierté se laissait voir qu'elle parut à tous être la princesse de Crète, Ariane, fille de Minos et petite-fille du soleil. Elle fit un signe, Thésée s'approcha. Elle fit un autre signe, les autres s'écartèrent et revinrent un peu sur leurs pas jusqu'à une trouée de flammes qui venait du plus rouge occident. Elle, haletante encore et les joues chaudes, sourit en fermant les paupières à demi. Elle étendit les bras, écarta sur les tempes du héros ses boucles noires trop amassées. « Tu es beau !» dit-elle avec joie. Et il se tut. Elle n'y prit pas garde et poursuivit. « Oh, je sais bien que tu vas tuer le Minotaure, et que tous les dieux pèseront sur ta main quand tu fracasseras sur la pierre le mufle farouche et hargneux. Mais comment sortiras-tu de cette inextricable crypte ? Vainqueur et portant à point haut la tête dégoûtante du solitaire, tu mourrais dans les avenues closes, entre deux murs toujours les mêmes, et ce que la force aurait accompli, l'oubli sourd le laisserait périr. Tu ne sais pas que ce palais est un tourbillon de pierre et que celui qui s'y engage ne peut plus s'en dégager. Mais j'ai pensé à toi, fils léger Pandionide, et dans l'intervalle de mes seins, je t'apporte le salut. Elle glissa la main dans sa tunique et en tira un peloton vert. Voici, dit-elle, c'est mon fil de millet. Il est fin comme un de mes cheveux et long comme le tour de l'île. Avec lui, j'aurais tissé des chemises vertes pour toutes les nymphes de cette forêt ou un voile flottant pour la mer. Prends-le. Tu le divideras tout entier jusqu'au séjour reculé du monstre, et tu le suivras pour revenir vers le jour. » Elle se tourna du côté des victimes. « Allez, cria-t-elle, vous êtes sauves !» Elles s'enfuirent. Myris ne partit point. Thésée reçut le peloton de fil et demanda « Qui es-tu ?» « Je suis à toi. Ne puis-je te nommer ?»« Ariane, cette fois fille de Zeus, par les aïeuls de mon père qui est Minos, roi de la Crète. Mais si un autre nom te plaît, dis-le, ce sera le mien. » Comme il se penchait sur l'Orient, il regarda les yeux d'Ariane, et, sans parler davantage, il pénétra dans le labyrinthe. « Thésée, Thésée !» elle appelait. « Thésée, arrête-toi, je ne puis plus attendre. Je veux aller, je veux te voir. Oh, je suis curieuse d'assister à ta victoire sanglante. Entre, c'est moi qui porterai le fil, et quand tu auras terrassé la bête, je baiserai tes belles mains meurtries par les cornes, et tu seras mon époux sur le lieu de ton triomphe. » Quand elle entra sur ses pas dans la nuit dédalienne, elle fixa sur une roche le bout pendant du fil vert. Mais quand elle sortit au bras du héros, laissant fuir le fil dans sa main fermée, la borne qui les rattachait à la vie était le pauvre corps de Myris, étranglé. Chapitre 2. Entre les forêts et la mer. Le matin. Une petite plage ronde, pure et jaune. Ariane, endormie dans l'île de Naxos, s'éveilla sans ouvrir les yeux, car elle voulait repasser dans son esprit tout ce qui était arrivé depuis le premier jour où la vue de Thésée avait fait naître en elle-même une seconde Ariane inconnue. Les cèdres, les épées solaires, l'ouverture du gouffre bâti, les victimes vêtues de blanc, le héros sans armes ni casque, le fil, la borne, l'avenue, les circuits brusquement coudés, l'interminable descente, l'interminable montée, la bête, les naseaux baveux, les cornes, les mains monstrueusement larges, la lutte lourde, le sang glossant sur la terre, le retour à travers les ténèbres, la revue adorée du jour, la rosée sur le bout des herbes, le soir sur le sommet des cèdres, la marche molle, le départ, le premier mouvement du vaisseau, l'odeur de la mer, la couleur de la nuit, la fraîcheur de l'aube et le second jour, et le second crépuscule et le débarquement. Elle savait qu'elle avait dormi près du tueur, côte à côte avec sa gloire, et elle s'éveillait dans une félicité parfaite, devant l'horizon d'une vie également heureuse et certaine. Sa main s'étendit, sa main retomba sur la terre. Sa main chercha, tourna, recula, étonnée. Toujours l'herbe ou le sable ou les fleurs froides ou la boue. Elle appela « Thésée ». Elle ouvrit les yeux et la bouche et elle se dressa et elle leva les deux bras et une sueur affreuse glissa de ses cheveux. ni auprès d'elle, ni devant elle, ni à ses pieds, ni dans ses bras. Elle courut vers la mer, le vaisseau était démarré. Loin, moitié sur le ciel et moitié sur les flots, un petit oiseau noir s'enfuyait. Nef rapide qui portait la fortune de Thésée, si loin que la vue même le distinguait à peine et que le cri désespéré mourut avant de l'atteindre. Folie ! Elle entra dans la mer, jetant sa tunique au galet. Les vagues heurtaient ses cuisses frissonnantes. L'eau monta jusqu'à son ventre. Elle cria « Ô Poséidon, roi des champs glauques, pasteur des flots, soulève-moi, emporte-moi jusqu'à celui qui est moi-même !» Poséidon l'entendit, mais ne les osa pas. Une eau miraculeuse ravit Ariane plaintive et l'ajouta doucement sur la mousse épaisse. Et le vaisseau avait pour toujours disparu derrière le mur de la mer. Au même instant, un grand bruit, la foule, les cris affolés, le craquement du sol des forêts. « Io, Evoé, qui est dans le chemin? Qui est dans le chemin ?» Les bacchantes des vallées de la montagne, et les satyres et les paons, et le cortège bousculé sous les tirses. Qui est dans le chemin? Qui est dans la demeure? Iakos, Iakos, Evoé! Elle portait des peaux de renard attachées sur l'épaule gauche. Leurs mains agitaient des branches d'arbres et secouaient les guirlandes de lierre. Leur chevelure était si pesante de fleurs que leur nuque se pliait en arrière. Les plis de leurs seins étaient des ruisseaux de sueur, les reflets de leurs cuisses étaient des soleils couchants, et leurs hurlements se mouchetaient de bave envolée. Iakos, Dieu beau, Dieu fort, Dieu vivant, Iakos mène l'orgie. Iakos fouette et guide, exaspère la multitude, refoule la cohue et les pieds rapides. Nous sommes à toi, nous sommes ton souffle, nous sommes tes désirs turbulents. Et voici, soudain, elles aperçurent Ariane. Alors elles se précipitèrent et lui prirent les bras et les jambes, elles tordirent ses cheveux désolés. La première saisit la tête et, pesant du pied sur l'épaule, l'arracha comme une fleur sourde. Et les autres écartelaient les membres, et la sixième, déchirant le ventre, en tira la matrice petite, et la septième, fonçant la poitrine, déracina le cœur vomissant. Le dieu parut. Elles se ruèrent sur lui, brandirent leur trophée. Il était nu, couronné de pampres. Une peau de faon pendait sur ses reins. Il tenait une coupe de buis. Il dit « Laissez ces pauvres membres !» Les bacchantes les jetèrent sur le sol et, chassés par un geste, s'enfuirent brusquement dans la montagne comme un troupeau piqué d'étang. Alors il pencha sa coupe creuse qui ruissela merveilleusement. Et les membres se réunirent, et le cœur revécut coup à coup, et Ariane égarée se souleva sur la main. « Ô Dionysos ! » dit-elle. La nuit claire et sombre était dans la mer. Le dieu tendit les doigts en avant et parla d'une voix grave et tendre. « Lève-toi, je suis le réveil. » « Lève-toi, je suis la vie. Donne-moi la main, viens avec moi. Voici le chemin de la paix éternelle. » Chapitre 3. Un ravin haut et nu. La nuit, le calme. « Qu'est-il devenu ?» demandait Ariane. « Je ne sais plus son nom et pourtant je me rappelle qu'il m'a laissé. »« Il fallait, » répondait le dieu, « il fallait qu'il te laissât, car telle est la loi de l'amour en qui tu t'étais confié. Ceux qui demanderont ne seront pas aimés, ceux qui seront aimés s'en iront. Et c'est pourquoi tu te trompais. Mais aujourd'hui, tu es dans la vraie route, sur le chemin de la paix éternelle. Ô roi Dionysios, quelle est donc cette paix? Ne la sens-tu pas? Il est vrai, je ne suis plus Ariane. Je ne sens plus les pierres ni les feuilles sous mes pieds autrefois meurtries. Je ne sens même plus la fraîcheur de l'air. Je sens ta main. Cependant, je ne te touche pas. Mais où me mènes-tu, Dieu adoré? Tu ne verras plus jamais le soleil trop éclatant ni la nuit trop ténébreuse. Tu ne sentiras plus la faim ni la soif, ni l'amour ni la fatigue. Et le pire des maux, la crainte de la mort, Ariane, tu en es délivrée, car en vérité tu es déjà morte. Et vois quelle félicité! Oh, eussé-je pensé qu'on pût être heureuse sans le pernicieux amour? Regarde-moi! Oh, je te vois sans cela, je te vois, ô sauveur, mais où me conduis-tu? Le pays que tu vas hanter est indécis, crépusculaire, uniforme, incolore, léger. L'herbe y est pareille aux fleurs, aussi pâle que le ciel et l'eau. L'air est pour toujours immobile, et la clarté mystérieuse comme un jour d'hiver ou une nuit d'été. On ne sait si le jour monte de la terre ou descend du firmament bas. Les bourgeons n'éclosent jamais, les corolles ne tombent plus. Il n'y a pas d'oiseaux dans les branches et le bruit de 6 milliards d'âmes est un silence inexprimable. Tu n'auras plus Dieu, pourquoi verrais-tu? Tu n'auras plus de main, à quoi bon toucher? Tu n'auras plus de lèvres, tu seras délivré du baiser. Mais l'ombre de la réalité subsistera autour de toi. La survie est un rêve sans joie et sans chagrin. Sans désir et sans jouissance, tu ne connaîtras plus la douleur. Habiteras-tu aussi le pays que tu me promets enfin? Je suis le dominateur des ombres, le maître de l'eau infernale. Je siège sur un trône de ténèbres. Mon doigt levé attire à lui les âmes, et du plus lointain du monde elles viennent tournoyer, faiblir, battre de l'aile sous mon regard. Je porte une couronne de pampre, car ainsi que le raisin coupé revit sous les pieds dans le pressoir et ruisselle en vin écarlate, ainsi l'angoisse de la mort se transfigure à miracle dans l'ivresse de la résurrection. Je tiens à la main des épis de blé mûr, car de même que le grain pourri renaît dans la terre nourricière et pousse en herbe vivace, de même la douleur et l'inquiétude germent, fleurissent, s'extasient dans la grande paix éternelle où tu vas. Y serais-je loin de toi, pauvre âme isolée dans la multitude? Non, tu régneras, toi aussi, à mes côtés, ô reine, ô belle tresse, et tu reflèteras sur ta face le calme ineffable des prairies souterraines. C'est toi que les âmes mortes verront la première, et tu auras cette joie qui est refusée aux dieux même de contempler la naissance de la béatitude dans les yeux calmes pour toujours des incorruptibles esprits. Ô Dionysos! Et elle leva les bras vers lui. Est-ce tout? Dit Philina. Je n'en dirai pas plus. Et Rhea, déconcertée, Mais c'est Perséphone qui est reine des enfers. Oui, dit Thrasès. Alors Ménandrillon, qui avait entendu la fin du conte mythique, prit à part le narrateur et le regardant d'un œil pénétrant. Tu n'as pas dit ce que tu pensais. Non. Quand Dionysos eut ainsi parlé à la fille de Minos, la vérité est qu'il l'anéantit. Mais par le seul récit des bonheurs futurs, ne lui avait-il pas donné plus de joie qu'il n'en promettait? Je viens de faire pour ces femmes ce qu'il fit pour Ariane. Ne leur dessille pas les yeux. Il vaut mieux donner la confiance que d'accomplir les serments, car l'espoir est plus doux que la conquête. Mais le regret est plus doux que l'espoir. Les femmes ne savent pas cela.